Bonjour mes frères et mes sœurs. Depuis des années, nous attendons le retour du Christ, certes. Quelques heures ont prétendu la date, mais les années sont venues et passées sans que le Christ ne revienne. Pourquoi ? La Bible prédit-elle le retour du Christ ? La réponse est affirmative. Dont-elle des précisions ? La réponse, à nouveau, est affirmative. Pourquoi alors sommes-nous dans le doute en ce qui concerne la date du retour du Christ ? Je me rappelle, il y a quelques dizaines d'années, des membres de l'Église qui étaient prêts pour partir pour Petra, soi-disant l'endroit de sécurité, pour s'assurer qu'ils seraient protégés lors des événements du retour du Christ. C'était la folie, certes, mais savez-vous que le Christ viendra quand même malgré la folie des hommes. Le Christ reviendra, mais il y a des conditions au retour du Christ, à ses promesses. Nous devons nous faire notre part, car nous avons une part à jouer en ce qui concerne le retour du Christ. Étions-nous prêts il y a 50 ans, mettons, pour le retour du Christ ? Non, pas du tout. J'en suis moi-même témoin, moi-même je n'étais pas prêt. Le sommes-nous aujourd'hui ? Hélas, la plupart d'entre nous dirons non, nous ne sommes pas prêts. Quelles sont ces conditions ? Ces conditions sont toujours les mêmes. L'obéissance absolue à Dieu. Faire notre part. Accomplir la promesse que nous avons faite au Christ en ce qui concerne le retour du Christ. C'est-à-dire vivre selon ses lois, vivre selon ses conditions, vivre selon ses commandements. Croissons-nous chaque jour dans la grâce et la connaissance ? Sommes-nous fidèles aux engagements que nous avons pris lors de notre baptême ? Sommes-nous plus prêts aujourd'hui que nous l'étions hier ou avant-hier ? Sommes-nous plus prêts aujourd'hui en ce qui concerne la compréhension de la Bible que nous l'étions il y a 2 ou 3 semaines ? Voyez-vous, ces questions ont besoin de réponses. Et ces questions doivent être comprises, doivent être affirmées, doivent vraiment nous aider à comprendre pourquoi certains d'entre nous sont lents à marcher ou à avancer, si vous voulez, et pourquoi d'autres avancent plus rapidement. Le Christ reviendra, cela est certain. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, je cite les versets 1 à 2. « Enfants, maintenant on parle aux enfants ce qui concerne le physique et aussi aux enfants spirituels. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, cela est juste. » Bon, voyez-vous, nous savons qu'il y a une obéissance pour les enfants afin qu'ils comprennent la volonté de Dieu. Honore ton père, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Alors, cette recommandation divine s'adresse aux enfants, premièrement, physiques, en ce qui concerne les enfants, donc, des parents dont nous sommes ici, mais aussi et surtout à l'Église. Car d'une façon générale, nous sommes des enfants de Dieu et nous qui avons reçu le Saint-Esprit lors du baptême, nous sommes vraiment enfants de Dieu et nous devons croître spirituellement et obéir à Dieu dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » Le Christ est notre parent. Dieu le Père est notre parent. Voilà pourquoi le retour du Christ est tellement attendu aujourd'hui. Car vraiment, ce retour qui est souhaité doit avoir lieu lorsque nous, l'Église, avons accompli notre tâche. Vous et moi avons un rôle important à jouer. Ces dernières années, les événements prophétisés s'accélèrent de plus en plus. Regardez autour de vous, jetez un regard autour de vous et voyez ce qui se passe. Voyez comment l'Église de Dieu elle-même s'est divisée. C'est triste, c'est presque incroyable. Voyez comment les nations se sont détournées de Dieu et se détournent encore. La Bible a perdu sa signification pour beaucoup de gens. Elle ne fait pas autorité. Ces dernières années, les gens parlent beaucoup du retour du Christ, certes. Des événements qui touchent à la fin du monde, certes. Mais ils n'y croient pas, du moins la plupart d'entre eux. Si nous avons des enfants, nous savons que nous devons faire notre part. Nous devons non seulement leur enseigner la voie à suivre, mais encore les gérer, les châtier s'il le faut, les punir en effet, si nécessaire. Une fois encore, nous devons suivre les recommandations que le Christ nous donne dans la Bible. Tout châtiment doit être fait avec amour. Tout châtiment a besoin d'être expliqué. Tout châtiment doit être expliqué de façon à ce que les enfants comprennent. C'est ce que Dieu fait dans la Bible. Cette vérité se révèle à travers la Bible, non seulement dans l'Ancien Testament, mais encore dans le Nouveau. La raison pour laquelle nous souffrons sur cette terre, c'est parce que nous transgressons les lois que Dieu a inscrites pour notre bien. L'apôtre Paul a écrit sur l'inspiration divine, et je cite Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous l'avons compris cela. Nous avons compris cela lorsque nous nous sommes fait baptiser. Mais à moins de mettre en pratique, nous ne comprenons pas ce que c'est que la loi divine et ce que c'est que la volonté de Dieu. Avant le premier avènement du Christ, nous avions des gens qui croyaient au Christ, qui croyaient aux promesses faites dans la Bible, mais ils ne comprenaient pas exactement la raison pour laquelle le Christ devait venir. Autrement dit, d'une façon générale, les gens ne comprenaient pas la différence entre un individu converti et un individu qui ne l'était pas. Dieu a parlé et parle à travers la Bible à nous qui sommes ses enfants, et il veut que nous comprenions sa volonté. C'est ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce qu'ont fait les prophètes à travers les siècles. Ils nous guident par tous les commandements, car nous sommes, nous, ses enfants. Nous avons besoin d'être châtiés si le châtiment est nécessaire. Vous qui m'entendez maintenant, avez-vous été vraiment proche de Dieu? Avez-vous été baptisé comme la Bible recommande? Je parle maintenant du baptême par immersion. Après vous être repenti, cru et croire à la Bible et faire de la volonté de Dieu. Lisez Actes 2, verset 38. Et je cite, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et maintenant, posez-vous la question, sincèrement, combien de progrès ai-je fait depuis mon baptême? Pouvez-vous vraiment dire qu'aujourd'hui, vous êtes sensiblement meilleur que hier? Êtes-vous moins charnel, moins égoïste? Comprenez-vous la Bible aujourd'hui mieux que hier, lorsque vous la lisez? Je me souviens d'un ami philosophe qui comprenait la Bible à sa façon. Elle était absolument convaincue que cette façon de comprendre la Bible était meilleure. Son raisonnement était, humainement parlant, juste à ses yeux. Il pensait, certes, que certains passages de la Bible étaient difficiles à comprendre, mais comme il les comprenait lui-même, c'était la meilleure façon de comprendre. Voyez-vous, ce n'est pas ainsi qu'on comprend vraiment la Bible. Ce n'est pas ainsi qu'on doit chercher à la comprendre. Prenez la Bible, mettez-vous à genoux, lisez-la, et tâchez d'avoir toujours l'attitude sincère, l'attitude simple, l'attitude humble, pour demander à Dieu, « Dieu, écoute, moi je ne suis rien, aide-moi à comprendre, aide-moi à savoir ce que tu dis dans la Bible et ce que tu veux que je comprenne. » Par exemple, vous qui lisez Matthieu 7, verset 12, je cite, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Allez bien réfléchir. Ce commandement révèle la base même de tous les commandements de Dieu. Et c'est vrai. Si étrange que cela puisse paraître, beaucoup de gens le croient, tous, entre guillemets, pratiquent à leur façon, c'est-à-dire... ils aiment leur prochain selon leurs propres sentiments, selon leur propre compréhension, mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous aimions notre prochain. Nous devons aimer notre prochain comme le Christ nous a aimés et nous aime. Par exemple, il y a plusieurs années, lorsque j'étais encore sur Radio Luxembourg, j'avais fait un sermon un jour où j'expliquais ce qu'est le christianisme. Et j'ai dit que l'amour constitue la base même du vrai christianisme. Alors, il y a un auditeur qui a crié tout d'un coup, me dit avec grande joie du reste, « Bravo, monsieur Appartient, vous avez raison, c'est l'amour qu'il faut faire. » Cet homme ne comprenait absolument rien, mais voyez-vous, à son avis, c'était là ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il avait en tête, c'était l'amour physique, alors que moi, je parlais, en citant la Bible, de l'amour spirituel. Comme vous pouvez le constater, cet homme ne comprenait pas ce que je disais. Absolument rien. Il avait sa façon de raisonner, et cela lui suffisait. C'était sa religion. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'une façon générale. Dans le prétat du christianisme, l'amour est proclamé d'une façon physique, l'amour est cru d'une façon physique, et nous sommes tous pris dans cet engrenage. Les rapports physiques sont différents des rapports spirituels. Dieu nous proclame à travers la Bible que nous devons être chrétiens et sur le plan physique et sur le plan spirituel. Lisez Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Lisons ensemble et je vais vous l'expliquer. Paul écrit, verset 22, Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça, nous comprenons. Toute femme comprend. Mais maintenant, ça commence à devenir un peu plus difficile. Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Alors là, ça commence maintenant à être un peu plus difficile à comprendre. Qui est le corps dont il est le sauveur? Autrement dit, le Christ, c'est le sauveur de l'Église. Voyez-vous, cette compréhension des deux corps, physique et spirituel en même temps. Il parle ici, Paul parle ici de la femme et de l'homme. Ensuite, et de la femme et du Christ, et de l'Église. Il dit par exemple, Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voyez-vous, ça devient difficile. Les femmes aujourd'hui ne voudraient jamais accepter une telle condition. Il dit, par ailleurs, il dit mari. Mais maintenant, il parle au mari et il pose des conditions que les maris eux-mêmes n'acceptent pas. Il dit, mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour sa femme, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Autrement dit, voyez-vous, on prend ces deux aspects, du baptême et aussi en même temps de la conversion. Et Paul explique, verset 27, « Afin de faire paraître devant lui, devant Dieu, cette Église sans tache, sans ride, rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. » Voilà les rapports entre le Christ et nous. Et voilà les rapports entre un mari et une femme. C'est ça, cette compréhension. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, et c'est vrai. Nous nous aimons tous nous-mêmes, mais pas les autres. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il la nourrit, il en prend soin, comme Christ a fait pour l'Église. Voyez-vous ce parallèle, c'est important, parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà la compréhension de ce commandement. Et ce commandement, comme vous pouvez voir, est physique et spirituel. Verset 32, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, ajoute Paul, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Commencez-vous à comprendre. Regardez autour de vous, je vous prie. Combien de familles connaissez-vous où l'homme et la femme s'aiment de cette façon? Combien de maris connaissez-vous qui aiment leur femme comme le Christ aime l'Église? Ou la femme qui obéit à son mari, comme l'Église doit obéir au Christ? Pas beaucoup, j'en suis certain. C'est le contraire qui se produit aujourd'hui. Non seulement les mariages empêchent les hommes et les femmes de se rapprocher, mais encore la plupart des gens ne veulent pas se marier, détestent le mariage même. Ils cherchent l'amour physique, et non pas l'amour physique et spirituel dans le mariage. Voyez-vous, nous sommes dans un monde où nous avons perdu, je dirais, la compréhension de la Bible. Nous avons perdu l'attachement au Christ. Nous avons perdu, en quelque sorte, la connaissance de ce qu'est l'amour véritable. Ce n'est pas cela dont le monde a besoin, l'amour physique dont s'est on parlé. Ce monde a besoin de l'amour spirituel. Avant votre baptême, avant notre baptême, je dirais, nous ne savions pas ce qu'est le véritable amour. Nous autres dans l'Église, c'est comme l'apôtre Paul explique ici dans l'Épître aux Éphésiens, nous ne comprenions pas que le mariage physique est le parallèle du mariage spirituel entre l'Église et le Christ. Ce sont là ces vérités-là que nous avons apprises et que nous devons continuer à apprendre et y progresser, car si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons croître dans la grâce et la connaissance du Christ. Notez l'exemple du Christ lui-même. Il est venu non pour recevoir quelque chose lui-même, mais pour donner. Donner tout ce qu'il avait, donner sa vie même. Voyez-vous, le Christ s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions un jour partager sa gloire, que nous connaîtrons lorsque le Christ viendra. Voilà pourquoi nous attendons le retour du Christ. Et alors, nous comprendrons ce qu'est le véritable amour. Mais après la mort du Christ, alors que les gens devaient croître davantage dans cette connaissance, ils sont davantage reculés en arrière. Ils se sont éloignés du Christ. Ses apôtres, après lui, ont fait leur part. Ils nous ont aidés à être convertis. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers l'étude de la Bible, à travers l'Église de Dieu et ses ministres qui prêchent, comme je fais aujourd'hui, la vérité. Les apôtres du Christ, eux aussi, ont fait de leur mieux. Et eux aussi ont donné leur vie pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Mais hélas, nous sommes toujours là où nous étions, du reste la plupart du temps, et la plupart de nous, dès le commencement. Quelques 2000 ans après la mort et la résurrection du Christ, le véritable christianisme est proclamé par un petit groupe, comme je fais maintenant. Des gens qui croient au Christ, des gens qui croient à la Bible, des gens qui croient à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, des gens qui veulent obéir au Christ, à tous les commandements que Dieu a donnés à travers la Bible. C'est ça le christianisme. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que ses disciples. C'est là la différence entre nous et peut-être et les autres. C'est la question qu'on nous pose. Quelle est la différence entre vous et les autres? La différence est simple. Nous croyons à la Bible. Nous croyons à l'Ancien Testament. Nous croyons au Nouveau Testament. Et nous obéissons à Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il nous dit, dans tout ce qu'il nous promet. Luc, verset 12, verset 31, « Ne crains point, dit l'Éternel Dieu, dit le Christ, petit troupeau. » C'est ce petit troupeau dont je vous parle. « Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Regardez cette promesse du Christ. Il dit « Ne craignez point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Pourquoi donc le véritable christianisme aujourd'hui a été rejeté en quelque sorte? Pourquoi avons-nous des milliers d'églises qui proclament le nom du Christ, le nom de l'Église de Dieu, mais ne pratiquent pas ce que le Christ dit? Les premières églises chrétiennes établies par le Christ se sont de plus en plus éloignées du Christ. Elles ont oublié les commandements de Dieu. Et aujourd'hui, rares sont ceux qui croient vraiment à la Bible, qui croient vraiment au Christ, qui croient vraiment même, je dirais, au retour du Christ, littéralement parlant. Notez par exemple la parabole que le Christ a donnée en parlant de son retour. Il s'agit de la parabole des dix vierges. Écoutez bien, je vais lire et je vais l'expliquer en même temps. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Le Christ a dit, « Le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, comprenez bien, allèrent à l'encontre de l'époux. » Ici, vous avez donc le Christ qui vient et l'Église à son esprit, le Saint-Esprit prend la lampe avec elle, individuellement. Ensuite, les gens donc vont vers à la rencontre du Christ. Verset 2. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Alors, l'Église même est divisée, comme vous pouvez voir, en deux groupes. Cinq ont pris avec elles la lampe et l'huile, et qui étaient sages, et les cinq autres, non. Les cinq autres n'avaient pas pris avec elles la lampe, ou alors la lampe si vous voulez, mais pas l'huile. Les folles, en prenant leurs lampes, voyez-vous, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Voilà la différence. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas la lampe, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne peuvent pas vraiment comprendre ce que c'est que l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Verset 5. Voilà le sujet de mon sermon. Voyez-vous, le retour du Christ tarde. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais en partie. Mais nous attendions le Christ il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Le Christ n'est pas venu. Mais maintenant, nous attendons vraiment le retour du Christ. Car les événements autour de nous nous montrent que le retour du Christ est tout proche. Alors, comme les poux tardés, verset 5. Ça, c'est important. Toutes s'assoupirent. Voilà ce qui s'est passé. Voilà toute l'Église de Dieu, la véritable Église de Dieu même, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui va se passer, mes frères et mes sœurs. Au milieu de la nuit, on cria, « Voilà l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, car nous sommes assoupis. Voilà le problème. Préparèrent leurs lampes, les folles, voilà maintenant la difficulté qui commence, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de l'huile, de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » La réponse est évidente. Les sages répondirent, « Non, il n'en aura pas assez. Pas pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, ou bien vous pouvez en procurer, et achetez-en pour vous. » Pendant que les folles s'en allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, qui avaient l'huile et la lampe, allèrent à sa rencontre en os, et la porte fut fermée. Entendez cela. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, donc se repentirent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» La porte était fermée. Le Christ a dit, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voyez-vous, les apôtres eux-mêmes, à l'époque, attendaient le retour du Christ. Ils pensaient que le Christ viendrait de leur vivant. Ils ne comprenaient pas tout à fait l'ordre des choses. Certains d'entre eux pensaient même que le Christ serait de retour à leur vivant. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Il est certain que les prophéties bibliques nous donnent suffisamment d'indications pour nous montrer d'établir à peu près la date du retour du Christ. Mais cette date dépend de plusieurs conditions, voyez-vous, notamment de notre croissance, nous autres en tant qu'Église, afin que nous puissions accomplir la tâche que le Christ nous a donnée. L'apôtre Paul lui-même, de son vivant, pensait que le Christ viendrait à l'époque même. Voyez-vous, autrement dit, avec toute la compréhension qu'il avait, il n'avait pas encore tous les détails. Le fait est que chacun de nous, nous devons être prêts. Nous devons être prêts au retour du Christ. Pour nous, si nous mourons aujourd'hui, c'est fini, la date est déjà là. Donc, ayant ça en tête, voilà pourquoi je dis maintenant, je cite Éphésiens, chapitre 1, versets 23-26, Paul dit, « Je suis pressé des deux côtés. » Il a travaillé, Paul, il a beaucoup travaillé. Il dit, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » C'est ce que je viens de vous dire. Le moment même où Paul a fermé ses yeux, lorsqu'il se réveillera, lorsqu'il sera vivant, il sera dans le royaume de Dieu, la date du Christ sera déjà là. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, donc, je m'en irai, je serai avec le Christ, ce qui est beaucoup meilleur que d'être au milieu des hommes, de souffrir avec eux. Mais pourquoi Paul a-t-il continué son travail? Verset 24, Éphésiens 1. À cause de cela, à cause de vous, dit-il, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Parce qu'il avait un travail à accomplir et il voulait finir son travail. Et je me suis persuadé, dit-il, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi. Voilà l'amour. Voilà ce qu'il veut faire pour vous et pour moi. Ce qu'il a fait. Afin que, par mon retour, dit-il, auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Paul a eu sa récompense. Il sera dans le royaume de Dieu. Et alors, qu'en est-il de vous et de moi? Où en sommes-nous? Lui, il a travaillé dur. Travaillons-nous dur nous-mêmes? Lui, il a fait sa part. Avons-nous fait? Faisons-nous notre part? C'est pourquoi je dis, comme Paul l'a déclaré, et je cite de Timothée chapitre 4, versets 6 à 8, regardez voir cette assurance qu'il a et cette assurance que nous devons avoir, vous et moi, si nous faisons notre part comme Paul l'a fait, la sienne. Car, dit-il, verset 6 de Timothée 6, 4, verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Voilà ce que vous devriez pouvoir dire. Ce que moi, je devrais pouvoir dire. Et Paul ajoute au verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me le donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, dit-il, écoutez bien, non seulement à moi, mais à tous ceux, à vous et à moi, qui croient en moi, qui font sa volonté. Mais encore, dit-il, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Êtes-vous de ce groupe? Suis-je? Nous le devrions. Revenons maintenant à la révélation du Christ lorsque ses disciples lui ont demandé quand il viendrait. C'est ça qui compte. Quand il reviendrait sur cette terre, il a dit, je cite, Matthieu 24, verset 3. D'abord, il s'assied sur la montagne des Oliviers. Ses disciples sont venus autour de lui et ils ont dit, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Voilà la question que je vous ai posée au commencement de ce sermon. « Quand est-ce que le Christ reviendra ? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Voyez-vous, c'est clair. Jésus leur répondit, « Prenez garde, maintenant, il nous donne les signes, il nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. » Il dit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise. » Car, dit-il, plusieurs viendront pour vous séduire. Et, dit-il, en disant, ces gens-là viendront, et ils le font aujourd'hui, que le Christ est ici, que le Christ est là-bas, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est ce que nous entendrons aujourd'hui. » Depuis des années, ces dernières années, écoutez, nous avons eu deux guerres mondiales en moins d'un siècle. C'est ce que le Christ dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, dit-il, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Le Christ nous dit, il dit, ne vous faites pas tromper. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. C'est ce qui se passe. Regardez autour de vous. Un royaume contre un royaume. et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ce matin encore, on parlait de famine et de tremblements de terre à la radio. Tout cela, ajoute le Christ, ne sera que le commencement des douleurs. Non, ce n'est pas encore la fin, mais la fin est toute proche. Les précisions que le Christ nous donne sont claires. Ces choses, ça arrive, arriveront, mais le Christ viendra lorsque l'Église aura terminé sa mission et cette condition est presque achevée. Aujourd'hui, je répète, nous avons des guerres et des bruits de guerre. Aujourd'hui, nous avons de la famine. Aujourd'hui, nous avons des faux prophètes. Mais le Christ a dit, regarde maintenant la fin, comment ça va arriver. Matthieu 24, versets 21 à 22. Car alors la détresse sera si grande, ici le Christ parle de son retour, qu'il n'a point eu de pareil depuis le commencement jusqu'à la fin, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Voyez-vous, autrement dit, ce seraient des jours terribles. Ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Vous pouvez en être certain. Et quand ça arrivera, ça sera terrible. Mais ces jours, le Christ a dit, sont abrégés à cause, justement, de ceux que Dieu a appelés, à cause de l'Église de Dieu, à cause de ceux qui sont convertis, à cause de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Christ est notre Sauveur. Le Christ fera toujours tout ce qu'il peut pour nous aider à être sauvés. Nous autres membres de l'Église de Dieu, nous formons un petit groupe, une petite équipe. Nous avons pour tâche de proclamer l'Évangile même que je vous proclame, afin que l'humanité puisse s'approcher davantage du Christ, afin que les malheurs de ce monde vraiment soient courts. La raison pour laquelle le Christ a retardé son retour, c'est parce que l'Église elle-même n'est pas encore tout à fait prête. Elle n'a pas tout à fait achevé son œuvre, mais elle est en crainte de le faire. Aujourd'hui, voyez-vous, vous pouvez constater vous-même que les événements s'accélèrent, car ce qui était impossible il y a quelques années est tout à fait possible aujourd'hui. Nous pouvons travailler davantage et accomplir notre tâche davantage. Une fois encore, notez les conditions que l'apôtre Paul pose pour que l'Église puisse achever son œuvre, pour que nous puissions, nous, non pas pour nous-mêmes, non, mais pour l'humanité, parce que le Christ nous a appelés pour avertir l'humanité de ce qui va se passer. Notez-le. Comment être prêts, nous, en tant qu'Église? Je cite en partie, et puis je vais prendre quelques exemples ici, Romains 12. Tout le chapitre, mais je vais quand même l'abréger. Paul écrit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Voilà la grande différence, sacrifice vivant. Non pas mort, mais vivant. Nous devons vraiment vivre ce que le Christ nous enseigne. Et que si nous devons être sacrifiés, que nous soyons sacrifice vivant. Et qu'est-ce que c'est que le sacrifice vivant? Un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, regardez voir comment nous devons vivre, comme un sacrifice vivant, autrement dit vivre notre religion, faire ce que Dieu nous dit, saint, pas comme le monde le fait, mais saint mis à part, agréable à Dieu. Aujourd'hui, ce qui est agréable à Dieu n'est pas nécessairement agréable aux hommes. Et ça, c'est la différence. L'apôtre Paul nous dit que nous devons nous faire ce qui est agréable à Dieu, vivre comme Dieu veut que nous vivions. Et nous soyons un culte raisonnable. Voyez-vous, ces choses-là que nous avons perdues en quelque sorte, nous les autres chrétiens, d'une façon générale. Et comment faire? La réponse au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez autour de vous, regardez voir où nous sommes, nous autres humains. Regardez voir l'adultère, regardez voir les guerres, regardez voir les crimes, regardez voir les jalousies. Tout ça, c'est être conforme au monde, au siècle présent. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voyez-vous, c'est encore clair. Nous devons chercher avant tout la volonté de Dieu. Ce qui est bon, voyez-vous, il explique. Ce qui est agréable et parfait. Je continue. Par la grâce qui m'a été donnée, dit Paul, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même pas une haute opinion. Malheureusement, aujourd'hui, à mesure que la science avance, les hommes se glorifient. Non, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Mais dit-il, de revêtir des sentiments de modestie. Voilà, nous devons être modestes, nous devons être humbles, malgré la science que nous avons, et nous avons une science assez avancée, parce que Dieu nous a donné la compréhension des choses. Ce n'est pas nous qui inventons, nous découvrons les choses. C'est Dieu qui invente, et nous découvrons grâce à l'Esprit qui nous a donné. Selon la mesure de foi que Dieu départit à chacun de nous. Car, dit-il, comme nous avons plusieurs membres dans l'Église et aussi dans le corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, et pourtant tous les membres contribuent à la même fonction, ainsi, dit-il, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà ce que c'est l'Église. C'est comme les membres. Je ne peux pas dire quel est le membre le plus important dans mon corps. Je ne sais pas. J'en ai besoin. J'ai besoin de tous les membres. Ensuite, Paul continue. Ainsi, nous sommes plusieurs, donc. Plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Et c'est ce qui se passe. Selon la grâce qui nous a été accordée. Ce sont les dons de prophétie, quelques-uns ont ça, et Paul explique. Quels sont les dons que nous avons reçus? Certains sont appelés au ministère, c'est ce que je fais. S'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Nous avons chacun donc notre travail à faire, notre part à jouer. Celui qui exhorte à l'exhortation. Voyez-vous, même l'exhortation peut être une mission. Essayez-le. Allez voir quelqu'un qui souffre. Parlez-lui avec amour. Encouragez-le. Donnez-lui de l'espoir. Et même aide matérielle, c'est possible, je sais. Mais ce qui compte, l'encouragement dont la personne a besoin. Vous verrez la différence que cela fait. Certains sont appelés à la libéralité, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside, autrement dit, quelqu'un a un poste important, un président, un roi, je ne sais pas. De toute façon, si vous avez un poste de responsabilité, faites-le avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde, voyez-vous, même la miséricorde est un don. qu'il le fasse avec joie. Essayez-le. Faites la miséricorde avec le sourire aux lèvres. Faites la miséricorde avec la joie dans le cœur. Que la charité, c'est-à-dire l'amour, l'amour véritable, l'amour spirituel, que la charité soit sans hypocrisie. Vous savez, mes frères et mes sœurs, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont des hypocrites. Et nous sommes tous en quelque sorte. Nous faisons quelque chose pour être vus. Nous contribuons à la charité, ou à la libéralité si vous voulez, pour être vus. Ce n'est pas ça la libéralité. Ce n'est pas ça vraiment aimer son prochain. Ce n'est pas ça vraiment donner. Quand vous donnez quelque chose, que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, voyez-vous. C'est ça qui compte. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ensuite, Paul ajoute, et c'est beau, quand on voit, je suis en train d'examiner tout le chapitre, comme vous savez, parce qu'il faut lire ce chapitre entier pour comprendre ce que c'est que l'amour, l'amour véritable, l'amour spirituel. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez féroce d'esprit, servez le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire que vous saignez le Seigneur lorsque vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre? Vous servez le Seigneur. Lorsque vous l'aidez à comprendre un peu la Bible, vous servez le Seigneur. Lorsque vous aimez votre prochain, vous aimez le Seigneur. Réjouissez-vous, verset 12, en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas patients. Nous sommes tous pressés. Nous ne savons pas ce que c'est que la patience. Le Christ nous a montré ce que c'est que la patience en tournant la joue, en souffrant pour nous. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est là, hélas, quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Beaucoup de chrétiens, j'entends. Priez-vous le matin en vous levant. Priez-vous dans la journée si vous avez l'occasion. Priez-vous le soir en vous couchant. Faites une habitude. Ne partez jamais au travail le matin sans avoir prié. N'allez jamais vous coucher avant de prier. Que ce soit une habitude, que ce soit un devoir, vous verrez la différence dans votre vie. Ayez toujours cette approche, cette compréhension, cette proximité que Dieu est avec vous. Vous verrez la différence. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Des saints, certes, mais aussi pour les autres, s'il le faut. Mais n'oubliez pas, les saints sont ceux qui sont vos collègues dans l'Église, les membres de l'Église. Donc, si vous voyez quelqu'un dans l'Église qui a besoin d'aide, donnez-lui. Je parle maintenant d'aide financière. Mais ceci est vrai même pour les autres qui ne sont pas nécessairement membres. Ce que Paul dit ici, c'est que nous puissions aimer vraiment notre prochain. Et surtout, principalement, ce que Dieu a appelé en ces temps de la fin. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas facile. Vous avez quelqu'un qui vous déteste, qui ne vous aime pas, peut-être à cause de votre religion, je sais, priez pour lui. Je sais, j'en sais, parce que j'ai eu des expériences pareilles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Voyez-vous la différence? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Autrement dit, aidez-les à apprécier la vie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Non pas se sympathiser avec eux, mais les encourager en leur donnant ce que c'est que avoir le sentiment d'être béni par Dieu. Allez parler à quelqu'un qui souffre et encouragez-le. Dites que vous souffrez avec lui. À propos, savez-vous ce que c'est que le mot compassion? Compassion, c'est souffrir avec quelqu'un. C'est ce que le Christ a dit à travers la Bible. Il parle de compassion. Dieu a compassion. Nous devons, nous, en tant que ses disciples, avoir de la compassion et aider nos prochains à sortir des souffrances. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Autrement dit, ne faites pas une distinction. Oh, c'est mon frère, j'aide. Ça, c'est un voisin, je ne l'aide pas. Non? Frère ou voisin, si vous avez les moyens, tâchez d'aider. Même, vous devez aider vos ennemis, si vous le pouvez. Faites-le, vous verrez les bénédictions que vous aurez. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, verset 16, Romains 12. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous abaisser ou attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos yeux. Voyez-vous, ça c'est important. Beaucoup de gens sont vains. Beaucoup de gens sont pleins de fierté. Ne soyez pas sages à vos yeux, dit Paul. Ne rendez à personne, voilà, ça c'est très difficile. Verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes, y compris vos ennemis. Voyez-vous, c'est pourquoi le christianisme est difficile à mettre en pratique. Nous avons tous nos propres sentiments, nous voulons être chrétiens à notre façon, mais nous voulons savoir que le Christ est mort pour tout le monde. Et il est mort pour le pécheur comme pour le saint. Il est mort pour le criminel comme pour vous. Tâchez de comprendre. S'il est possible, autant que cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voyez-vous, le vrai christianisme n'est pas facile du tout parce que nous devons faire des choses qui sont contre notre nature humaine. Nous devons faire ce que le Christ a fait, nous sacrifier pour ceux qui nous détestent, pour ceux qui nous ont, comment dirais-je, qui nous ont tués, parce qu'ils ont tué le Christ. Ne vous vengez point vous-même. Et ça, c'est important. Laissez le Christ se venger pour vous. Il y a beaucoup de fois, beaucoup d'occasions où vous aurez besoin de l'aide du Christ pour qu'il parle pour vous, pour qu'il agisse pour vous, pour qu'il fasse ce qui est juste pour vous. Laissez-le faire. Il pourra le faire beaucoup mieux que vous. Donc, ne vous vengez pas vous-même. Laissez la colère passer. Essayez-le. Faites une habitude. Lorsque vous êtes en colère, n'agissez pas. Attendez. Attendez juste à ce que la colère s'apaise. Ensuite, vous prendrez une décision. Mais alors vous direz, mais je souffrirai entre-temps. Non, vous ne souffrirez pas entre-temps. Regardez voir le reste de ce verset. Car, dit-il, il est écrit, et c'est la Bible, verset 19, « À moi la vengeance, c'est Dieu qui parle. » À moi la rétribution, dit le Seigneur. Ensuite, l'apôtre Paul, vous pouvez voir pourquoi l'apôtre Paul était si proche de Dieu. Parce qu'il a souffert beaucoup, mais il a appris beaucoup. Et il nous enseigne beaucoup. Il dit, car, dit-il, est écrit, en moi la vengeance, c'est toi, c'est Dieu qui a parlé ainsi. En moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, gardez encore la condition, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Non pas parce que nous voulons amasser des charbons à sa tête, mais parce que nous voulons être chrétiens. C'est ça la différence. Nous voulons être chrétiens, agir en chrétien, vivre en chrétien, et s'il le faut, mourir en chrétien. Verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal. Et c'est facile, c'est très facile de se laisser vaincre par le mal. Mais dit-il, surmonte le mal par le bien. Voilà ce que c'est qu'être chrétien. Voilà pourquoi tellement de gens ne sont pas chrétiens aujourd'hui, bien qu'ils prétendent l'être. Le christianisme est une religion qu'il faut vivre, et non pas seulement parler. Nous autres, les véritables chrétiens, c'est-à-dire ce que Dieu a appelé, c'est que nous avons cru, ceux qui ont cru à l'appel du Christ, ceux qui ont reçu le baptême, ceux qui pratiquent chaque jour le vrai, le véritable christianisme. Le christianisme, dis-je, aujourd'hui, nous avons une tâche à accomplir. Nous avons un rôle à jouer. Nous devons préparer le chemin du retour du Christ. Nous devons être prêts nous-mêmes pour que le Christ arrive. Voilà pourquoi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, nous n'étions pas aussi prêts que nous le sommes aujourd'hui. Et nous devons l'être davantage pour que nous puissions accomplir notre tâche le mieux possible. Si nous passons plus de temps avec la Bible, nous autres, si nous cherchons à savoir comment mettre en pratique l'amour que le Christ nous a enseigné et nous enseigne chaque jour, lorsque nous nous adressons à lui, ce christianisme va nous permettre d'accélérer le retour du Christ. Nous devons faire notre part, nous devons agir en tant que véritables chrétiens. Ayons les yeux ouverts, tâchons chacun de nous de faire notre part, d'accomplir la mission pour laquelle le Christ nous a appelés. Le Christ a choisi de retarder son retour, mais ce retard n'est que temporaire. Au contraire, les événements s'accélèrent et vous pouvez le voir vous-même. Vous verrez que l'attente est beaucoup plus courte, sera beaucoup plus courte, et le Christ reviendra avec une vitesse fantastique. Soyons prêts. Le Christ a aussi choisi de retarder son retour par le passé pour que l'Église soit prête. L'Église se prépare davantage. Allons-y de l'avant avec force. Nous n'avons pas beaucoup longtemps à attendre. Laissez-moi citer 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Enfin, dit-il, soyez tous animés des mêmes pensées. Regardez voir, il parle maintenant du christianisme véritable, des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Il parle du Christ, ayant les mêmes sentiments que le Christ a eu, lui qui a donné sa vie. Ne rendez personne le mal pour le mal. C'est dur, mais il le faut. Si nous sommes vraiment chrétiens, si nous attendons le Christ, si nous voulons que le Christ accélère son retour, ne rendons pas le mal pour le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Au contraire, dit-il, c'est cela est agréable à Dieu. Humainement parlant, ça n'a pas de sens, mais c'est ainsi que nous devons nous comporter pour plaire à Dieu. Vous avez été appelés, vous, moi, l'Église, afin d'hériter la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est le retour du Christ. C'est quoi le retour du Christ pour nous autres? C'est que nous serons changés d'être charnel que nous sommes en être spirituel que nous serons. C'est cette bénédiction que le Christ est venu nous promettre. C'est cette bénédiction que nous hériterons. C'est pour cela que nous sommes appelés. Faisons notre part. Remercions Dieu de ce que nous avons une part à jouer dans le plan divin. Je répète, Ne rendez personne mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la vie éternelle. Comprenez-vous? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Laissez-moi terminer encore les deux ou trois derniers versets. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, et le monde aime la vie à sa façon, et voit des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Voilà encore comment être véritablement chrétien. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà comment devenir véritablement chrétien. Qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et ensuite, au verset 12, et avec ce verset, je termine. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Nous pouvons être justes en mettant en pratique ce que je viens de vous dire ici. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Oui, les oreilles du Seigneur sont attentives à nos prières. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, mes frères et mes sœurs, nous avons le choix, nous avons les moyens, nous avons la force de faire ce que Dieu nous dit de faire. Soyons pleins de courage, pleins de force et pleins de reconnaissance envers notre Seigneur.